Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, le 35e de cette 7e saison, nous recevons aujourd'hui Kun Tao, bonjour.
Bonjour Monsieur Gilles.
Alors vous êtes chinoise d'origine, nationalité française aujourd'hui, vous êtes implantée à Lézignan-Corbière dans l'œnologie, dans l'exportation de vin, mais vous êtes née en Chine, vous êtes venue en France après un certain nombre d'années. Alors ça serait intéressant d'abord de faire un petit tour en Chine, un petit peu d'exotisme, Kun Tao, de voir comment les choses se sont passées pour vous, comment vous êtes, en êtes venu à venir vivre et travailler en France, au point d'ailleurs de prendre la nationalité. Alors, vous êtes né en quelle année? Parce que la Chine, on la voit, nous, de loin, peut-être avec des imageries d'Épinal, parfois fausses. Mais vous êtes né... je sais que ça ne se fait pas, en général, dans la galanterie française, de demander à une dame son âge, mais je vais faire une exception. Vous êtes né en quelle année?
Je suis né en plein révolution, la grande révolution culturelle chinoise. Donc, en 69.
Oui, alors à l'époque Mao, tel qu'on
Exactement.
Le voyait aujourd'hui. Et alors, la Chine, dont on sait aujourd'hui, on la connaît mieux, elle a commencé à s'ouvrir à peu près à cette époque-là, dites-nous.
La Chine commence à s'ouvrir à partir des années 80.
Ah, un peu plus tard.
Un peu plus tard.
Donc, vous avez quand même vécu une bonne dizaine d'années dans la Chine plus traditionnelle.
Oui. Exactement.
Et alors, comment les choses se passaient-elles? Par exemple, sur le plan de la scolarité, je crois que ça se passe à peu près comme chez nous. Vous êtes l'école primaire commence à 6 ans?
Oui, l'école primaire commence à 6 ans. Ça dure... au début, ça a duré 5 ans. Et maintenant, ça dure 6 ans, l'école primaire. Après, c'est l'école secondaire.
Secondaire, oui, un petit peu comme chez nous.
Qui dure 6 ans.
Et l'enseignement en Chine se passe en quelle langue? Parce qu'on sait que la langue officielle, c'est le mandarin. Est-ce que ça se passe partout en mandarin ou d'autres formes de chinois sont encore admises dans l'éducation?
Effectivement, la langue officielle, c'est le mandarin. Donc, mandarin est enseigné dans les écoles partout en Chine. Malgré, il existe une diversité de langues locales. Donc, on peut dire que ce sont des patois ou ce sont des dialectes.
Oui, comme par exemple à Hong Kong, ils ont une langue différente.
Oui, à Hong Kong, tout le monde parle cantonais.
Oui, voilà. Donc, c'est une forme de chinois du Sud.
Exactement.
Voilà, on peut dire ça.
C'est un patois de la province de Canton.
Oui, oui, oui. Et alors, donc, l'enseignement officiel, comme chez nous, il se fait en français, il se fait en mandarin, l'enseignement des langues étrangères, parce que quand on vous entend parler français, on a l'impression que vous avez toujours parlé français. Bon, or, ça n'est pas le cas.
Non. En fait, dans les écoles, en Chine, on enseigne anglais comme la première langue étrangère.
Est-ce que c'est tout le monde, c'est obligatoire?
C'est obligatoire dès l'âge de 6 ans, en principe. Ça dépend des régions aussi. Il y en a qui commencent encore plus tôt dans les écoles maternelles.
C'est-à-dire que le chinois moyen, il est bilingue, finalement. Est-ce qu'on peut dire ça?
On ne peut pas dire ça, parce que c'est un peu comme en France. Donc, beaucoup de Chinois comprennent l'anglais assez facilement, mais ils ont du mal à pratiquer oralement.
Ouais.
C'est comme ici, les Français apprennent aussi l'anglais dans les écoles, mais ils ont peu d'occasion d'en pratiquer. Et en réel, ils parlent un petit peu, mais parfaitement bilingue.
Ah bon, d'accord. C'est-à-dire, si vous me permettez cette boutade, les Chinois sont aussi mauvais en anglais que les Français le sont. Parce qu'il y a des Européens, les Hollandais ou d'autres, des Danois, qui maîtrisent très vite l'anglais. Eh bien, ce qui n'est pas le cas chez nous.
Voilà, ce qui n'est pas le cas pour les Chinois non plus.
Non plus, voilà, parce que c'est un enseignement, c'est théorique, mais ça n'est pas une pratique quotidienne.
Exactement.
Et alors vous, comment arrivez-vous à la langue française?
La France, ça a été toujours un rêve pour moi. J'ai, dès l'âge d'adolescence, j'ai beaucoup aimé la France. J'aime la culture française.
C'est-à-dire avant même de toucher à la langue.
Oui. Donc je lisais les littératures françaises des grands écrivains comme Balzac, comme Victor Hugo, etc. Donc ça a été toujours un rêve pour moi. C'est oui. pour cela que j'ai choisi sa belle langue comme mes études universitaires.
Mais sinon, vous les lisiez, j'imagine, en traduction chinoise.
Bien
Donc,
sûr.
Toute cette littérature-là existe en traduction chinoise.
Exactement.
Donc Balzac en chinois, ça existe.
Oui.
Absolument. Et alors donc, à un moment, vous avez envie donc de passer dans le concret et d'apprendre la langue. Ça se fait où, à l'université?
Oui. Donc l'enseignement de la langue française se fait qu'en études universitaires.
Ah, uniquement.
Oui. Uniquement.
Et alors, à quel moment vous, alors, vous apprenez la langue, à quel moment vous lui dites, bon, maintenant je veux aller au-delà? C'est-à-dire, bon, peut-être aller voir dans le pays lui-même.
Oui. Après mes études universitaires, j'ai travaillé un petit peu dans les agences touristiques comme guide française. Donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de touristes français qui venaient découvrir ce grand pays. Et j'ai beaucoup échangé avec eux. Ça m'a donné envie de venir découvrir la belle France aussi.
Ah, voilà, c'est-à-dire que vous avez eu quand même beaucoup de contacts avec des francophones et des Français, des touristes.
Oui.
C'était une époque où déjà beaucoup de Français venaient faire du tourisme en Chine.
C'était dans les années 90, oui, ça commençait.
Ça ne faisait que commencer, c'était pas encore très massif.
Exactement.
Mais c'est ça qui, ça suffit pour vous dire, bon, maintenant je passe à l'étape ultérieure, donc je vais voir en France.
Oui.
Alors racontez-nous la suite.
Donc en 99, je suis venue continuer mes études dans une école de commerce à Grenoble, donc en matière de commerce international.
Oui. Et pourquoi le choix de Grenoble? C'était une opportunité?
Oui, voilà, j'ai pas choisi exprès.
Oui. Et alors, donc, quel cursus, quel enseignement est-ce que vous avez subi là-bas?
Donc, j'ai fait le master en commerce international. Donc, après les études à Grenoble, j'ai tout de suite trouvé un travail dans la région parisienne. Mmh. Donc, plutôt dans l'industrie, hein, en télécommunication. Voilà, donc j'ai travaillé pendant 6 ans dans la région parisienne.
Kuntao, quand vous arrivez à Grenoble, donc vous avez un choix déjà d'enseignement? C'est vous qui l'avez choisi ou c'est les circonstances qui vous ont amené vers telle formation?
Oui, c'était les circonstances du moment qui m'a amené à faire les études commerciales dans une école de commerce.
Et il y avait beaucoup de Chinois ou de Chinoises à l'époque qui venaient déjà en France faire des études?
C'était le début des étudiants chinois. Il n'y en avait pas encore autant qu'aujourd'hui, mais ça commençait.
Oui, donc vous avez fait partie des premiers arrivés, en quelque sorte. Et les premiers arrivés, premiers servis. Bon. Et alors, donc, à partir de là, vous avez un diplôme français. Vous aviez toujours la nationalité chinoise à l'époque.
Oui.
Aujourd'hui, vous n'avez plus que la nationalité française, parce que vous avez opté pour, et je crois que la Chine ne reconnaît pas la double nationalité.
Oui. C'est le cas.
À quel moment vous décidez ben justement de faire un choix? Parce que c'est peut-être pas facile d'abandonner sa propre nationalité.
En fait, après les études, j'ai tout de suite trouvé un emploi dans la région parisienne. Donc j'y ai travaillé pendant 6 années à peu près. Et c'est à ce moment-là que j'ai songé la naturalisation.
Oui, oui.
Donc j'en fais la demande. Et ça a été accepté.
Donc, et automatiquement, donc vous perdiez la nationalité chinoise.
Oui.
Ça se passe comme ça.
Oui, c'est ça.
Oui, voilà. Et alors, le travail que vous faisiez en région parisienne était basé forcément sur votre connaissance linguistique, votre double, votre bilinguisme ou même trilinguisme. Qu'est-ce que vous faisiez exactement?
J'étais dans une grosse entreprise chinoise
qui
s'appelle ZTE.
Oui, qui fait quoi?
qui est spécialiste de la télécommunication, comme l'entreprise Huawei. Donc, c'est le numéro 2 de l'entreprise de télécommunication en Chine. Donc, ils ont installé une grande plateforme en Europe, à Paris.
Ah oui, voilà. Donc, les Chinois avaient déjà commencé des installations ou des acquisitions d'entreprises.
Ils ont installé leur antenne.
Oui, c'est une antenne qu'ils avaient installée.
Tout à fait.
Oui, d'accord. Et alors, donc là, vous êtes en région parisienne, mais à un moment, forcément, il y a un déclic, vous allez venir beaucoup plus au sud. Vous allez finir, d'ailleurs, à un moment, à devenir plus française que les Français en vous mettant dans le vin et dans l'œnologie. Et ça, on va marquer une première pause et on va se retrouver tout de suite après, Kuntao, si vous le voulez bien.
Merci, avec plaisir.